Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est le numéro 526 de notre magazine réalisé par Christian. Et c'est une émission un peu exceptionnelle que nous vous proposons ce soir, puisque j'ai la chance de recevoir au micro de RVE deux jeunes femmes, Isabelle Beautian et Anne-Catherine Hoth. La première est scénariste, la seconde dessinatrice. Elles signent ensemble un album intitulé Havre, un formidable récit post-apocalyptique paru chez Ankama et que nous vous avons déjà conseillé dans cette émission il y a quelques semaines. Pour rester dans cette ambiance féminine, hélas assez inhabituelle dans Captivant, nos pauses musicales seront toutes chantées par des interprètes féminines. En fait, les seules voix masculines de cette émission, à part la mienne bien sûr, seront celles du professeur Mortimer, du docteur Focas et de l'ignoble Chrisma, les personnages de notre feuilleton, le piège diabolique dont nous écouterons ce soir le 27e épisode. Anne-Catherine Hoth, on va commencer par toi. Peux-tu nous raconter ton parcours? Tu as démarré dans le dessin animé, je crois.
Oui, mon premier travail, c'était sur le film Persepolis, voilà, où j'avais un poste pas forcément très créatif, qui s'appelle La Trace. Il s'agissait d'ancrer les dessins d'animation très minutieusement. Donc c'était rigoureux, mais intéressant, puis c'était un beau projet, donc c'était bien.
Ta formation, c'est quoi? T'as une formation justement pour travailler dans le dessin animé, une formation d'animatrice?
Alors c'était une formation au métier de l'animation en général, donc à Angoulême, MK, École des métiers du cinéma d'animation. Oui, on était un peu formés à tout, storyboard, animation, enfin un traitement numérique maintenant du dessin animé, ce qui se fait beaucoup. Par exemple, sur Persepolis, c'est quelque chose qui ne se faisait plus. J'ai été formée sur Persepolis pour faire La Trace.
Et alors, la bande dessinée, c'est une vocation de jeunesse ou c'est arrivé par hasard?
Non, en fait, c'est vraiment ma première vocation. Depuis que j'ai 10-12 ans, j'ai vraiment eu très envie de faire de la BD. À peu près vers 17-18 ans, j'avais plus envie de faire du dessin animé, mais dès que l'occasion s'est présentée de faire de la BD pour de bon, j'ai sauté dessus, quoi.
Cette occasion, justement, comment s'est-elle présentée? Comment Isabelle Beautian est-elle entrée en contact avec toi?
Je venais de finir mes études, j'étais retournée à habiter à Strasbourg avec mon compagnon parce qu'on avait vécu éloigné assez longtemps. Comme à Strasbourg, il n'y avait pas tellement d'opportunités dans l'animation, j'essayais de faire un peu d'illustration, mais je faisais surtout des petits boulots alimentaires. Et sur le Café Salé, qui a un gros forum de dessineux, venait de s'ouvrir une section scénario, où des scénaristes venaient chercher, proposer leur histoire à des dessinateurs. Et donc j'ai vu la petite accroche de scénario d'Isabelle, et je lui ai envoyé quelques crobards, et on a commencé à collaborer.
Havre, c'est sorti chez Ankama, vous l'avez proposé à d'autres éditeurs?
Oui, on a fait deux moutures du dossier. La première, qui n'a pas tout de suite trouvé preneur, on avait quand même des regards bienveillants, mais peut-être parce que c'était à l'époque estampillé post-apocalyptique. La deuxième mouture du dossier, on a mis science-fiction, qui passait peut-être un peu mieux. Et puis bon, on a retravaillé les planches entre le premier et le deuxième. Et puis finalement, après la deuxième mouture, Ankama nous a contactés quand même assez vite. Ouais, ça s'est passé assez rapidement.
Anne-Catherine Hoth, dessinatrice de Havre chez Ankama. Tes influences, quelles sont-elles? On sent un petit peu une influence manga dans le traitement des personnages, non?
Alors, c'est pas volontaire. Je lis des mangas, mais c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas ma lecture majoritaire. Disons que comme j'ai des goûts très éclectiques, citer une influence, ça va être dur. Il y en a probablement plein, mais c'est pas toujours très conscient. Et c'est un gros mélange de plein de choses. Là, je serais bien en peine de citer des noms parce que j'ai un peu passé l'âge d'être vraiment fan de tel ou tel auteur, mais il y en a beaucoup que j'apprécie. Et après, s'il y a des influences, j'essaie de les digérer, donc c'est pas très très conscient. Mais je lis de tout, du franco-belge, du comics, du manga. Pour le traitement des personnages, c'est la première fois qu'on me fait cette réflexion, oui, mais ça ne me gêne pas, donc éventuellement, peut-être, oui.
Bah, c'est une des qualités des auteurs japonais, hein. C'est l'expressivité des personnages qui manque parfois à certains auteurs franco-belges classiques.
C'est vrai que quand on rentre un peu dans un registre un peu réaliste, ça reste peut-être un petit peu timide. Moi, je n'hésite pas à forcer un peu le trait, bon, sans aller trop loin non plus. Et c'est vrai que les mangakas sont assez forts pour ça, mais il faut dire qu'ils ont beaucoup de récits très psychologiques. Comme ils ont des formats assez longs, ils développent beaucoup l'intériorité de leurs personnages, donc c'est un aspect sur lequel ils apportent beaucoup de soins. Ce qui est vrai que dans les formats, on va dire, européens classiques, on a moins d'espace pour faire ça.
Anne-Catherine Hoth, je te propose d'écouter tout de suite les Pretenders avant d'interroger ta scénariste Isabelle Beautian.
Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping a bomb on my street. Now come on, baby, oh, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a kiss. A man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Oh, come on now, in the middle of the road, yeah.
Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier. Ce soir, dans Captivant, je reçois deux jeunes femmes, la scénariste Isabelle Beautian et la dessinatrice Anne-Catherine Hoth, qui signent ensemble un album intitulé Havre et paru chez Ankama. Isabelle, c'est à ton tour de passer sur le grill. Comme Anne-Catherine, peux-tu nous raconter ton parcours? Avant de devenir scénariste de BD, tu t'es un peu cherchée, non? Tu as conjugué ou alterné la littérature, le cinéma, la comédie?
Mais c'est vrai que j'ai pas mal hésité avant de me lancer dans la BD. D'ailleurs, au début, je voulais faire plus du roman. C'était vraiment l'écriture qui m'intéressait. Et c'est dans la BD que ça a marché en premier. En fait, entre-temps, j'ai fait une thèse de bio. Donc 9 ans d'études qui n'ont pas servi à grand chose. Et à la suite de quoi, j'ai fait un petit peu de pige scientifique. J'ai été attachée de presse au CNRS pendant 10 mois. Et c'est pendant cette période que j'ai signé mes deux premiers albums. Donc, et après, les deux premiers albums faits, ça a coulé un petit peu plus naturellement.
Ça t'a servi, cette formation scientifique, ou pas, dans tes scénarios ?
Pas vraiment. En fait, j'aurais voulu faire des bouquins de vulgarisation scientifique illustrés ou en BD, mais ça ne s'est pas encore présenté. Et non, en fait, j'ai fait des études de sciences parce que j'avais des résultats pas trop mauvais au lycée. Donc, on m'a orientée là-dedans. J'étais curieuse. J'ai fait ça comme j'aurais pu faire histoire de l'art ou d'autres études qui donnent un bon bagage de culture générale et qui sont toujours très intéressantes intellectuellement, mais j'avais pas vraiment de plan de carrière. Je me suis lancée là-dedans et c'est arrivé en thèse que je me suis aperçue que la recherche c'était un métier passion, et que pas juste un truc qu'on faisait parce qu'on aimait bien ça, et donc je me suis dit quitte à faire un métier passion et à galérer un petit peu pour le faire, autant revenir à mes premiers amours, donc l'écriture. C'était l'écriture et la comédie, mais c'est dans l'écriture que c'était le plus naturel.
Alors la comédie, oui, parce que tu fais un peu de cinéma, non ? Des courts-métrages, t'es actrice même ?
Oui, je suis actrice amateur, on va dire, vu que j'ai jamais été payée pour le faire, mais donc bon, on essaie de s'employer à ce que ça change. En fait, c'était ma première orientation après le bac, c'était la comédie. Et puis bon, pour diverses raisons, j'ai un peu mis ça de côté. Et en fait, j'ai rencontré mon fiancé dans une école de théâtre, et lui faisait des courts-métrages, et voulait se lancer en tant que réalisateur et acteur, et on a pas mal travaillé ensemble, et le dernier qu'on a fait, c'était vraiment intéressant parce qu'on a eu on a réussi à intéresser plusieurs acteurs qui avaient déjà une bonne carrière, une grande carrière même, Jean-Claude Dreyfus, Bernard Lecoq, Annie Dupéret. On a même eu les Digue Pelvis, qui sont un super groupe de rock, et c'est le groupe de rock de Julien Doré, le fameux Julien Doré de la Nouvelle Star, qui fait aussi du rock un peu plus alternatif, donc ils nous ont fait la bande originale. Donc ça, c'était un moyen métrage, et là on essaie en croisant les doigts de se lancer pour en faire un long, mais bon, j'en dirai plus quand ce sera plus avancé.
Ça peut se faire, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs de bande dessinée qui font des films, et les passerelles deviennent de plus en plus nombreuses. Mais alors la bande dessinée, comment on fait pour convaincre un éditeur de bande dessinée on lui propose un projet, comment ça se passe?
Alors moi, en fait, ma première bande dessinée, c'était Effleuré chez Dargaud, donc c'était un one-shot un peu sentimental. Et en fait, j'ai rencontré le dessinateur sur Internet, on a monté notre petit dossier, tout à fait naïvement, en prenant notre temps, puis une fois que ça a été fait, on a envoyé à droite à gauche, et 15 jours après, Dargaud nous répondait que ça les intéressait. Donc ça, c'était vraiment, vraiment inespéré, parce qu'on l'avait envoyé en se disant, ce serait dommage de ne pas le faire, mais ils ne vont jamais nous prendre, qui ne tente rien à rien, hein, la preuve. Donc voilà, c'était vraiment inespéré que le premier sorte chez Dargaud. En plus, il a été très bien accueilli. Donc à chaque fois qu'on relance un nouveau dossier, même si on est déjà édité, on reprend un peu à zéro. Le fait d'être déjà édité, c'est surtout on va dire une quasi garantie que le dossier sera lu. Après, à moins d'être une grande star de la BD, enfin, avec tout ce que ça peut avoir de relatif, le terme star de la BD, bon, ça va pas changer grand chose. On sera quand même rejugé à zéro à chaque fois, mais bon, au moins on a déjà les contacts, on a déjà des gens qui commencent à s'intéresser un peu à nous, à savoir ce qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est une fois qu'on est entré, c'est un petit peu plus sécurisant, on va dire.
Oui, puis en plus, il y a de plus en plus de femmes auteurs de bande dessinée maintenant, alors que c'est un métier qui a longtemps été très, très masculin.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est juste parce que bon, le lectorat de BD était essentiellement masculin, et du coup, c'est peut-être l'influence. Bon, après, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais peut-être que l'influence manga, avec le shoujo, voire même le shonen, qui intéresse aussi beaucoup, beaucoup de femmes, ont amené beaucoup de nanas à faire de la BD, et puis du coup, je pense quand on commence à en lire, on commence à pouvoir l'envisager en tant qu'auteur. Je pense que ça s'est fait tout seul comme ça.
Isabelle Beautian, je te propose d'écouter tout de suite La Grande Sophie avant de parler de Havre, l'album que tu as écrit et que notre autre invitée, Anne-Catherine Hoth, a dessiné.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part, des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage, 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 du soi que l'on porte au bout des doigts, de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage. Que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage.
Monsieur, s'il vous plaît, quelques mots, je vous prie.
L'interview.
Deux jeunes femmes sont au micro de Captivant, le magazine de la BD sur RVE, la scénariste Isabelle Bautian et la dessinatrice Anne-Catherine Hoth. Elles signent ensemble un album intitulé Havre et paru chez Ankama. Isabelle, d'où est venue l'idée de cette histoire de zombie? Je te provoque en résumant Havre de cette façon.
Ouais, c'est parce que tu sais que j'aime pas qu'on dise que c'est une histoire de zombie. Non, en fait, bon, c'est une histoire post-apocalyptique. Et en fait, j'ai pas vraiment de culture de ce genre. Enfin, je pense avoir vu ou lu des trucs dans ma vie là-dessus, mais j'en ai pas un souvenir particulier. Donc, j'ai vraiment abordé le genre avec un esprit assez vierge d'influence. Et je me suis même pas dit je veux faire une BD post-apocalyptique, c'est juste j'avais des thèmes que j'avais envie de traiter et il s'est trouvé que cet univers s'est imposé de lui-même. En fait, même en tant que lectrice, j'ai pas d'univers de prédilection. Donc, je vais pouvoir lire aussi bien de la fantasy que des romans graphiques ou du polar, même peut-être un peu moins, ou d'historique. C'est ce qui m'intéresse, ça va être vraiment le traitement, que ce qu'il soit graphique ou scénaristique, le propos qui sera dégagé et ce que je vais en retirer, moi. Pareil, ça s'est fait tout seul, là. L'univers s'est imposé.
Anne-Catherine, pourrais-tu nous résumer cette histoire post-apocalyptique qu'Isabelle a imaginée et que tu as dessinée ?
L'histoire débute, oui, dans une cité, dans une zone désertique. Cette cité, il n'y a plus qu'un seul survivant, avec son chien. Cet homme, il a un pouvoir, c'est qu'il est nécromancien. Et donc c'est pas le nécromancien classique qu'on peut imaginer par exemple dans les univers de Rick Fantasy ou tout ça, c'est pas un petit peu un mec qui veut conquérir le monde, lui il ranime les morts dans sa ville, c'est pour avoir un semblant de vie justement, pour pas devenir complètement fou. Puis bon, il est devenu un peu fataliste, il croit plus trop en l'humanité, il cherche pas de survivants, puis surtout dans le désert il y a des monstres assez agressifs, et un beau soir arrive à l'orée de la ville une sorcière. Donc c'est une femme qui a le pouvoir de ressentir les sentiments des autres. Et elle, son but en arrivant dans la ville, ça va être de faire sortir le nécromancien pour qu'il l'accompagne chercher d'autres survivants. Voilà, donc c'est le début de l'histoire.
C'est une sorcière un peu assez sexy, hein. C'est une jeune femme.
Oui, elle est pas mal, elle est assez persuasive, évidemment, comme on peut l'imaginer. Et puis c'est une femme très volontaire, avec un fort caractère. Mais oui, c'est vrai qu'il n'hésite pas à user de ses charmes pour convaincre le nécromancien qui est un grand romantique.
Isabelle Bautian et Anne-Catherine Hoth, je vous propose d'aller faire un tour dans un autre univers post-apocalyptique, celui du piège diabolique, le feuilleton de Captivant, dont on écoute tout de suite un nouvel épisode. Une aventure de Blake et Mortimer. Le piège diabolique, d'après Edgar Pierre Jacobs. Avec Jacques Morel, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort et Roger Carrel. 27e épisode.
Victime d'une machination posthume du professeur Milok, inventeur d'une machine à voyager dans le temps, Mortimer a été envoyé malgré lui au 51e siècle. Il y est recueilli par un groupe de résistants, dirigé par le docteur Foucas, qui lutte contre la terrible dictature mondiale. Un réacteur nucléaire abandonné dans les ruines d'une centrale du 21e siècle va permettre à Mortimer de fabriquer des bombes pour la résistance.
En fin de compte, c'est parce que le réacteur n'était pas en service au moment de la catastrophe qu'aujourd'hui nous avons la chance de le retrouver presque intact.
Le 21e siècle au service du 51e siècle. Quels sont vos projets, professeur?
Voilà, j'ai l'intention d'étudier d'abord les plans du réacteur, puisque nous avons eu le bonheur de les retrouver. Et seulement pendant un instant, il faudrait mettre la main sur la réserve de matière fissile qui doit être entreposée quelque part sous nos pieds.
Je le souhaite.
Et ensuite, une fois la pile remise en état, il faudrait passer à la fabrication des combustibles pour nos micro-bombes. Le deutérium, le tritium, enfin tout ce... Tenez, docteur, il me semble apercevoir là-bas un endroit qui nous conviendra très bien comme quartier général. Regardez. Cette casemate blindée n'a pas subi de grands dommages. C'est sûrement une ancienne chambre de veille. Voyez, la glace de la baie a fondu.
Je vous enverrai pour la remplacer un matériau qui ne craint pas ce genre d'accident.
Ah, alors là, c'est le 51e siècle au service du 21e. Merci, docteur.
Mais auparavant, je vais vous remettre ceci, qui vous sera d'une inappréciable utilité.
Qu'est-ce que c'est? Un bracelet montre?
Non, pas exactement. Voyez, ouais. Le cadran est plat et s'ouvre avec ce déclic. Le couvercle intérieur devient un petit écran et le boîtier un haut-parleur.
My God!
C'est un TIP, téléviseur individuel portatif, à ondes micrométriques. Seuls les officiers de la police et les technocrates de haut grade en possèdent un semblable. Celui-ci est réglé sur la même longueur d'onde que le mien et vous permettra d'entrer en communication avec moi dans n'importe quelle circonstance. Il suffit d'appuyer...
Chut!
Que se passe-t-il?
Personne. Pourtant, j'aurais juré que...
Vous avez entendu quelque chose, professeur?
Oui, j'ai cru entendre un bruit. La porte de la casemate est restée entrouverte. Mais je me suis sans doute trompé. Qu'est-ce que c'est que cette petite pastille blanche, là, par terre? Ah, c'est curieux. On dirait du plastique.
Faites voir, professeur.
Tenez. Vous connaissez ça?
Oui. C'est un émetteur relais. Collé n'importe où, il permet d'indiquer un récepteur spécial auquel il est relié, l'endroit précis où le relais a été posé.
Et le récepteur?
Ce récepteur est celui de la police. Professeur, vous vous rendez compte de ce que cela signifie?
Parfaitement. Il y a un traître parmi nous.
Il faut retourner sur nos pas. Partout, nous avons exploré. Peut-être y a-t-il encore d'autres relais que nous n'avons pas remarqués. Un œil non prévenu ne peut pas les voir. Allez de ce côté, professeur, moi je vais par là.
En peu de temps, et avant d'arriver à l'endroit où ils avaient laissé leurs compagnons, Mortimer et Foucas découvrent trois autres relais, placés à des points judicieusement choisis.
Trois relais sur 200 mètres. Le doute n'est plus possible. Celui qui nous épiait derrière la porte en a jalonné la galerie conduisant au réacteur.
Ouais, il nous a même suivis jusqu'à notre PC. Qu'est-ce que cela peut-il être?
Attention! Voilà Chrisma et ses hommes.
Chrisma! Chrisma! Maître! Vous me demandez, maître. Je surveillais le déblaiement, je vous entendais mal.
Chrisma, quelqu'un s'est-il approché de cette galerie?
Non, maître, personne.
Vois ce que nous venons de trouver près d'ici.
Quoi? Des relais de la police? Mais c'est très grave.
Oui, c'est très grave.
Dis à Xeno de rassembler tous les hommes qui ne font pas partie de l'équipe nucléaire et de remonter immédiatement.
Oui, maître.
Toi, passe au crible tous les endroits que nous avons traversés depuis notre entrée dans la cité. Je te verrai là-haut. Et surtout, silence.
Comptez sur moi, maître.
Professeur, cet incident risque de bouleverser tous nos plans. Il faut que je vous quitte pour prendre toute mesure propre à démasquer le coupable. et assurer notre sécurité.
Mais naturellement, c'est le plus urgent.
En ce qui concerne l'opération nucléaire, je vais vous faire pourvoir de matériel et de vivres en abondance. Oui. Ah, tiens, j'oubliais, notre indicatif radio sera combat pour vous et liberté pour moi.
Ok, on saurait se montrer trop prudent. Alors, j'ai bon espoir, docteur. Nous y arriverons.
C'était Shakira. Ce soir dans Captivant, nous recevons deux jeunes femmes auteures de BD, la scénariste Isabelle Beautian et la dessinatrice Anne-Catherine Hoth, qui signent ensemble un album intitulé Havre et paru chez Ankama. Avant de vous libérer, mesdemoiselles, je vous propose de nous dire quels sont vos projets, vos futures publications. Isabelle ?
Alors, de projets signés, là je vais avoir cette a priori cet été, bon, la date n'est pas encore fixée exactement, la suite, si j'ose dire d'Effleuré, c'est la suite entre guillemets, parce qu'en fait c'est un autre one shot qui reprend un des personnages d'Effleuré, c'est un personnage sur lequel j'avais pas mal de retours en dédicace, qui intriguait beaucoup les lecteurs, et donc sur une histoire complètement différente, mais pareil un one shot intimiste, pas sentimental pour le coup, mais plus en forme de quête initiatique. Bon, c'est un peu simpliste comme terme, mais on va le résumer comme ça. Donc ça devrait sortir cet été. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un album chez La Boîte à Bulles. Donc là, toujours un one-shot roman graphique sur une... ça s'appelle Ma vie d'adulte. Pour l'instant, ça s'appelle Ma vie d'adulte. Sur tous ces gens... qui sont sans être des rebelles, sont pas forcément faits pour le système de vie tel qu'il est fait dans notre société, et sans aucun jugement sur ce système, c'est juste que c'est pas leur mode de vie d'avoir ce boulot toujours le même, ou d'être dans une logique de progression sociale, ou d'avoir des horaires. Et alors ce sera mon premier livre qui sera partiellement, on va dire, même si le personnage c'est pas moi du tout, mais qui sera partiellement inspiré de mon cas, parce que moi j'ai vraiment vécu ça. Et donc comment réussir à se réaliser quand on n'a pas forcément envie de ruer dans les brancards, mais qu'on n'est pas forcément fait pour le rythme qui nous est imposé, entre guillemets. Donc, et puis il y aura Jessica qui est, pour le coup, ce sera chez Glénat, Drugstore, et ce qui est un one shot dans les milieux des standards téléphoniques de voyance par téléphone. Et c'est basé sur des témoignages, et c'est un milieu, donc là je parle même pas de la voyance en elle-même, mais de ce milieu de voyance par téléphone. C'est un milieu extrêmement malsain qui draine énormément de souffrance, et qui, du moins dans les témoignages que j'ai eus, frôlait vraiment parfois la manipulation mentale, voire l'escroquerie. Et c'est avec une formidable dessinatrice qui s'appelle Rebecca Morse. Voilà, donc ce sera la première BD.
Anne-Catherine, tu vas entièrement te consacrer à la bande dessinée dorénavant, ou bien penses-tu revenir au dessin animé un jour prochain, ou bien alterner les deux?
Bah là, c'est vrai que pour les deux ans à venir, vu que Havre sera en trois tomes, je pense pas faire autre chose parce que j'ai pas le temps. Franchement, si c'est possible, j'aimerais continuer à faire de la bande dessinée exclusivement. Bon, quoique l'avenir, dans l'avenir, peut-être qu'à un moment j'en aurai marre, et que si je peux retourner un peu au dessin animé, oui, si l'occasion se présente. Mais dans l'absolu, si je peux rester sur la BD, ça me conviendrait très bien, ouais.
Et tu aimerais écrire tes propres scénarios ?
Bah, j'ai déjà des idées de récits, je pense qu'il faut que je les mûrisse encore, que j'apprenne à faire un vrai travail de narration, tout ça, donc il faut encore que je le mûrisse. J'avais annoncé à Isabelle, quand on a commencé le projet, que pour moi c'était vraiment faire mes armes, cet album, me faire un peu les dents. Déjà même en narration, j'ai progressé au fil de l'album qui vient de sortir. Enfin, on le sent un peu qu'à la fin, c'est un peu plus fluide. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre avant de m'attaquer à mes propres projets.
Isabelle Bautian et Anne-Catherine Hoth, merci beaucoup d'être venues au micro de Captivant, et à bientôt, j'espère.
Eh bien, merci à toi, et à bientôt, j'espère aussi.
Merci également à Christian qui a réalisé ce numéro de Captivant. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.